Alors, bonjour à tous. J'attends d'avoir la première diapo. En tout cas, il n'y a pas de surprise sur cette diapo, voilà. Le pardon. Le pardon, c'est le sens de cette première bougie que les enfants ont allumée là devant nous. Et alors, ce matin, je vais vous rappeler le processus qui mène au pardon, qui installe ce pardon dans nos vies. Alors pour cela, je vais vous inviter à relever trois étapes. J'espère que vous arrivez à lire. C'est juste si vous voulez noter les références des versets, c'est juste les versets, donc vous pourrez les retrouver dans vos Bibles. La première étape, c'est l'offense. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait eu au préalable une offense, une réalité objective qui fait mal. Nous connaissons tous ce verset, donc Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu est notre modèle. Nous sommes invités à pardonner comme lui le fait. La première offense envers Dieu, le premier péché, a été la désobéissance d'Adam et Ève. Mais combien d'offenses depuis, envers lui, mais aussi envers nous les uns les autres. La deuxième étape du pardon, c'est la repentance. Dieu offre son pardon à tous les êtres humains, mais il ne l'accorde, il ne l'octroie qu'à celles ou ceux qui se repentent, qui reconnaissent leur tort, leur statut de pécheur, d'offenseur. La repentance, c'est à la fois la prise de conscience de notre propre faute ou de notre état, la confession de cette faute et le renoncement à celle-ci. Dans le modèle divin, il n'y a pas de pardon sans repentance. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous dit « Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie, et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Dans le milieu chrétien, on met parfois en avant des histoires de personnes gravement offensées qui ont donné leur pardon à leur offenseur, alors que ce dernier ne s'est absolument pas repenti. Oui, c'est vrai, quand on est offensé, on peut offrir le pardon. Mais l'exigence du modèle divin nécessite la repentance de l'offenseur pour que celui-ci soit pleinement pardonné, pour que sa dette soit effacée. Et j'ai trouvé cette citation. « Offrir son pardon libère l'offensé. Les sciences humaines le prouvent. Demander pardon libère l'offenseur. Les textes bibliques l'affirment. » Une troisième étape dans le pardon, c'est la réconciliation. Alors, pardon et réconciliation ne peuvent pas être confondus. Ce sont deux notions que les textes bibliques distinguent. Le pardon, c'est une réalité juridique. La dette est effacée. La réconciliation, c'est une réalité relationnelle. C'est l'inimitié, l'hostilité entre l'offenseur et l'offensé qui est supprimée. Pour autant, ces deux réalités distinctes ne peuvent être dissociées. Et donc, vous pouvez lire en Romains 5, versets 8 à 11, ce que l'apôtre Paul nous dit. « Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. En Jésus-Christ, Dieu nous pardonne et nous réconcilie avec lui. Cette réalité relationnelle est également exigeante. Elle implique des engagements de part et d'autre. Réparation et promesse pour l'un. Oubli et foi pour l'autre. Alors, lorsque nous avons compris ces étapes, les vivre dans notre vie nous amènent à une vie tellement différente. En effet, le pardon libère. Quand Dieu nous pardonne, il fait disparaître notre péché. Là encore, Michée nous dit, Michée 7, 19, « Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. » Si en pardonnant, nous considérons l'offense comme si elle n'avait jamais existé, nous n'aurions pas à tenir le compte des fautes du prochain. Une deuxième chose, le pardon purifie. 1 Jean 1, 7 déclare « Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » C'est ce que nous venons encore d'affirmer en prenant la Sainte Cène. Lorsque nous confessons nos péchés et recevons le pardon de Dieu par le sang de Jésus, nous sommes plus qu'excusés. Nous sommes débarrassés de notre péché, purifiés de sa souillure, comme le lépreux, dont la peau est purifiée et qui retrouve une peau normale et saine. Quand Dieu pardonne, nous sommes entièrement purifiés. Dieu ne peut et ne veut avoir de communion avec un être souillé. De même, si nous pardonnons à notre prochain, nous purifions la relation que nous avons avec lui. Le pardon justifie également. Il n'y a plus rien dans la loi qui puisse nous condamner, car Christ a accompli la loi et il est devenu notre justice. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5:21 « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Nous avons été justifiés, déclarés innocents, par le sacrifice de Jésus-Christ. Désormais, nous pouvons nous présenter devant Dieu, comme Jésus se présente devant son Père, sans aucun sentiment de culpabilité, d'infériorité et de crainte. Je suppose que vous connaissez tous Romains 8, 1. « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. Et en dernier lieu, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, le pardon réconcilie. Ce n'était pas Dieu qui avait besoin d'être apaisé, mais l'homme qui avait besoin de passer de l'état de rébellion à un état de repentance afin de recevoir l'amour de Dieu. De Corinthiens 5, les versets 18-19 nous disent « Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ » et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous recevons la réconciliation, à notre tour, nous la transmettons. Quand Dieu pardonne, son but est avant tout de rétablir la communion rompue par le péché de l'homme. Nous ne sommes pas seulement définitivement réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Nous vivons une vie réconciliée les uns avec les autres. Alors, je pourrais continuer encore longtemps comme ça. Parce que des réalités sur le pardon, sur ce qu'il apporte dans notre vie, comment il la transforme, comment il l'illumine, on en trouve beaucoup dans la Bible. On a vu cette lumière symboliquement ce matin en allumant la première bougie sur notre couronne de l'Avent. Mais moi, je voudrais vous parler de pardon autrement, avec une histoire bien connue de la Bible. Il s'agit de l'histoire de Joseph et de ses frères. Alors, avant de lire le texte biblique qui nous en parle, résumons un peu la vie de ce personnage. Joseph, c'est lequel numéro des fils de Jacob ? Est-ce que vous savez ?
L'avant-dernier.
Ouais, avant-dernier, c'est bien, mais alors c'est... Parce que pour ceux qui ne savent pas qu'il en a eu 12, il faut... précisé. Donc c'est le 11e fils de Jacob. C'est le fils de qui ? Quelle est l'épouse de Jacob ? Et Rachel. C'est son combien d'enfants à elle ? Donc il a déjà eu 10 enfants avant d'avoir le fils de l'épouse bien-aimée qui est Rachel. Et parce que c'est le fils de l'épouse bien-aimée, il est aussi le préféré de Jacob, parce que c'est l'enfant de sa vieillesse, hein, déjà après 10 enfants, oui, et c'est l'enfant de Rachel. Enfin, Rachel, qui a tellement longtemps soupiré, lui donne un enfant. Et bah, du coup, Joseph, il est jalousé par ses frères. Et en plus, s'il y a encore des enfants qui sont là, son père lui a donné quoi à Joseph ? Des enfants moins jeunes, hein, vous pouvez y aller. Une belle tunique. Voilà, il lui donne une tunique qui est un signe honorifique. C'est une tunique que portaient les nobles à l'époque. Alors là, les autres frères, c'est plus possible pour eux. Ils sont jaloux, ils n'en peuvent plus. Finalement, à l'âge de 17 ans, ils se débarrassent de lui et ils le jettent dans une citerne. Finalement, il est vendu à des marchands madianites qui passent non loin. Les frères font croire au papa que Joseph a été tué par une bête sauvage en maculant son beau manteau du sang d'un bouc. Donc là, vous voyez des offenses envers Joseph, il y en a déjà eu un certain nombre. Il devient l'esclave de l'intendant de Pharaon et il est accusé injustement de viol par la femme de celui-ci. Il est jeté en prison. Lorsque Pharaon fait un rêve, Joseph est appelé, car il a déjà interprété exactement le rêve de combien de prisonniers pendant son séjour en prison ? 2 prisonniers. C'est bien, vous connaissez l'histoire, hein ? Super. Alors il peut donner de bons conseils au roi, et celui-ci le nomme surintendant des greniers royaux et ministre d'État. Il devient ainsi un grand du royaume, très proche de Pharaon. Il a connu bien des tourments. Et savez-vous à quel âge il est devenu cet surintendant des greniers ? Bien, 30 ans. Vous relirez l'histoire, hein, c'est précisé dans la Bible, mais je n'ai pas noté le verset. Et voilà que la famine surgit, et c'est ainsi que ses frères arrivent en Égypte pour y acheter du blé, car une grande famine sévit aussi en Canaan. Alors Joseph les reconnaît, il va les soumettre à diverses épreuves, comme pour les tester. Ou tenter de se venger, penseront certains. Mais finalement, il se révèle à eux. Et c'est maintenant ce texte que nous allons lire dans Genèse 45, les versets 1 à 5, et puis les versets 14 et 15. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion, devant tous ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde !» Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi !» Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Et puis les versets 14 et 15. Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent de joie sur les épaules l'un de l'autre. Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Alors, quelle est votre impression, votre première impression à la lecture de ces versets ? Que pensez-vous de cette scène ? Pour ma part, j'ai été interloquée. En fait, je priais Dieu pour me montrer sur quel texte nous pourrions réfléchir ce matin, pour nous aider à comprendre le pardon. Et ce texte, je l'ai reçu pendant un culte il y a 2 semaines. Et c'est vraiment bizarre parce qu'il n'y a pas le mot pardon dedans. Si vous avez bien fait attention, à nul moment il n'est question de pardon. Pourtant, en le lisant, c'est une magnifique scène de pardon. Alors c'est vrai que d'abord j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux nous apprendre, mon Dieu ? Mais j'ai vite compris, parce que effectivement, ce récit, c'est celui du pardon de Joseph envers ses frères, celui de ses frères qui doivent assumer leurs fautes et laisser la réconciliation faire son chemin. La première chose que l'on voit, c'est que Joseph pardonne ses frères. Au verset 4, il dit « Venez près de moi ». Comment aurait-il pu manifester de plus belle façon son pardon envers ses frères ? Il ne les repousse pas. Au contraire, il veut les serrer dans ses bras. Et nous le voyons à nouveau dans les versets 14-15. Joseph serre son frère Benjamin dans ses bras. Celui qui est du même sang que lui. Alors quand on habitait au Nord Cameroun, on aurait dit même père, même mère. Durant les différentes épreuves auxquelles il a soumis ses frères, ceux-ci ont commencé à discuter entre eux, à comprendre que leurs mauvaises actions passées, donc la vente de Joseph, le mensonge envers leur père, la jalousie, la haine, avaient maintenant un prix à payer. Joseph les a entendus. Donc, il n'y a pas confession devant Joseph, voilà, on t'a fait du tort. Mais par contre, il était présent, il a entendu leurs regrets, leurs remords. Et son cœur a été saisi de compassion. Il a entendu le regret qui était dans les paroles de ses frères. Donc, eux ne le savaient pas encore, mais c'était une confession. Et il ne se vengeait pas. En les soumettant à différentes épreuves, il les amenait à réfléchir sur leurs actions, à prendre conscience du mal qu'ils avaient commis. Il a aussi compris que Dieu avait utilisé tous ces événements pour mettre en place son propre plan de sauvegarde pour toute sa famille. Et comment finalement ne pas pardonner alors que Dieu, qui est bien au-dessus de lui, a tout organisé ? Alors voilà, ça y est, je recommence à réfléchir, je vois les événements, j'essaye de bien structurer, de mettre les choses en ordre pour y voir vraiment le plan du pardon, comme je vous l'ai exposé au début. Mais finalement, moi, ce qui me touche au plus profond de moi-même, c'est l'attitude de Joseph. Lui, il ne fait pas un exposé en 3 points. Il est complètement transformé, bouleversé, touché au plus profond de lui-même. Il ne monnaie pas son pardon, vous savez, dans le style « si un tel me demande pardon, alors là, oui, je lui pardonnerai ». Il ne réfléchit plus. Son être tout entier pardonne. Il éclate en sanglots, des sanglots si forts que les Égyptiens qui sont sortis de la pièce les entendent. Des sanglots, non de tristesse, mais d'allégresse, de joie pour la communion qui se recrée avec ses frères. Dans mon introduction très scolaire, j'ai mentionné que le pardon libère. Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à notre place sur la croix. Là, Joseph nous montre que pardonner le libère aussi. Il perd toute cette chape de ressentiment, de tristesse qui pouvait peser sur lui. Il a vu ses frères et son cœur a débordé d'amour pour eux, quel que soit le mal qu'ils lui avaient fait. Il y a dans ce pardon une dimension tellement grande, tellement extraordinaire, incompréhensible. Toute la souffrance causée par la jalousie de ses frères disparaît en un instant. Si Joseph a pu continuer à vivre après que ses frères se soient débarrassés de lui, c'est grâce à l'amour de Dieu pour lui. Il en est conscient. Il a appris à décrypter les rêves grâce à la sagesse que Dieu lui a donnée. Il a continué à adorer Dieu tout en séjournant en Égypte, puisqu'il déclare à ses frères en Genèse 42, 18 « Je suis un homme qui rêve vers Dieu, faites donc ce que je vous dis et vous aurez la vie sauve. » Il a finalement compris que Dieu avait tout dirigé dans sa vie pour arriver à ce moment où il pourrait venir en aide à ses frères, à son père. Mais il ne garde pas une conscience intellectuelle de la situation. Il vit ça dans ses tripes, comme on dirait de nos jours. Ce n'est pas son cerveau qui dirige ses actes, mais c'est son amour pour les siens. L'amour que Dieu met dans son cœur au-delà de la situation conflictuelle qui pourrait exister. Oui, je le redis, c'est cela qui me touche profondément. Car il m'arrive, et peut-être que cela vous arrive aussi, de laisser ma raison diriger mes actes. Je ne suis pas née dans le pays de Descartes pour rien. Toute chose doit être analysée, sous-pesée, réfléchie. Je connais la théorie sur le pardon, alors j'applique cette théorie dans ma vie. Mais tout cela reste au niveau intellectuel. Je ne m'implique pas vraiment. Ce n'est pas ce que l'attitude de Joseph nous montre aujourd'hui. Il a arrêté de réfléchir. Il a arrêté d'accabler ses frères avec des épreuves. Il laisse son cœur déborder envers eux. C'est aussi ce que Noël nous rappelle. L'amour incroyable de Dieu pour nous. Il a envoyé son Fils, son unique, afin que nous puissions être pardonnés et sauvés. Ce n'est pas un fait dont nous devons débattre rationnellement. C'est un fait que nous acceptons par la foi. Alors ce matin, je vous exhorte à agir comme Joseph, à agir comme Dieu. Laissons l'amour qu'il déverse en nous prendre toute la place dans notre cœur et diriger notre vie. Apprenons à laisser la raison de côté. Et j'ai lu un livre que vous trouverez à la bibliothèque, qui m'a beaucoup impressionnée il y a quelques années. Et c'est une jeune femme, Kim Fuk Van Ti, qui a répondu à une journaliste qui l'obligeait à prendre position sur la situation de guerre à Alep en 2016. Un attentat suicide venait d'avoir lieu dans un stade en Syrie. Et Kim Fuk, c'est une enfant qui a été brûlée au napalm pendant la guerre du Vietnam en 1972. Elle a miraculeusement réchappé à la mort, mais au prix de terribles brûlures dont les cicatrices la font souffrir encore aujourd'hui. Vous pourrez lire son histoire dans le livre « Sauvé de l'enfer » qui se trouve à la bibliothèque. Donc. Et la journaliste pousse Kim Fuk dans ses derniers retranchements. Et finalement, elle lui dit « Kim Fuk », a-t-elle fini par dire d'un ton exaspéré, « en tant qu'ambassadrice de bonne volonté, vous êtes obligée de nous dire quelle est votre position sur cette tragique question de la guerre ». Mais Kim Fuk ne voulait pas prendre position. Ce n'était pas son rôle. Alors comment échapper à une telle injonction quand on souhaite prononcer des paroles chargées de sens que l'on est enfant de Dieu ? Kim Fuk a demandé la sagesse à Dieu, puis elle s'est exprimée. Ma position sur cette question et sur toutes les autres, c'est le pardon. Ma position, si vous voulez, c'est l'amour. Ma foi en Jésus-Christ m'a permis de pardonner à ceux qui m'avaient fait du tort. Et comme vous le savez, on m'en a fait beaucoup. Ma foi en Jésus-Christ m'a permis de prier pour mes ennemis au lieu de les maudire. Et ma foi en Jésus-Christ m'a permis de les aimer. Je ne fais pas que les tolérer, qu'être poli avec eux, non, je les aime. Il n'y a que cet amour qui puisse arrêter les guerres. La journaliste, qui était demeurée très professionnelle, sérieuse et stoïque depuis le début de la conversation, avait maintenant les larmes aux yeux. Voilà quelqu'un qui a vécu le pardon. Mais dans cette scène de pardon que nous avons vue avec Joseph et ses frères, il y a un deuxième point que je voudrais mettre en avant. C'est la nécessité pour les frères de se pardonner leurs fautes, leurs mauvais comportements. Ils ont déjà compris au chapitre 42 qu'ils sont en train de vivre des moments douloureux en raison de la dureté de leur cœur. Certainement, nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi nous nous trouvons nous-mêmes à présent dans la détresse. Tout au long de leurs allers-retours vers le pays de Canaan, il leur arrive des choses étranges. Et puis tout à coup, alors qu'ils ont commencé à se remettre en question, à s'avouer leur faute, ils sont placés en face de celui qu'ils ont maltraité. Ils savent bien qu'ils ont eu tellement tort. Et c'est la peur qui prend le dessus. Ils n'osent pas s'avancer vers Joseph, qui leur montre tellement d'amour, alors que eux se sont laissés guider par la jalousie, la haine, puis par la honte d'avoir mal agi. Et là, Joseph leur dit, « Ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords. » C'est pourtant ce que nous faisons souvent lorsque nous nous rendons compte de notre péché, de nos erreurs, n'est-ce pas ? Nous avons honte, nous nous sentons indignes. En fait, nous nous voyons tout à coup comme tellement misérables face à la sainteté de Dieu que nous ne croyons pas possible qu'un tel amour puisse exister. Nous savons intellectuellement que Dieu nous pardonne, parce que c'est ce qui est dit dans sa parole. Mais nous considérons le mal que nous avons fait, nous ne voyons que notre indignité. Au lieu de considérer la plénitude du salut accordé par Dieu, nous nous laissons parfois envahir par notre culpabilité. Et du coup, nous n'osons même pas demander pardon. À Dieu, oui, mais à ceux que nous avons offensés ? Mais tout comme Joseph dit à ses frères de ne pas se tourmenter ni s'accabler de remords, Dieu, par son Saint-Esprit, nous encourage à faire acte de pardon. Nous pardonner nous-mêmes pour oser demander pardon aux autres. En fait, tout comme nous avons parfois du mal à laisser le pardon envers les autres inonder notre cœur, nous avons aussi du mal à nous croire entièrement pardonnés. Cette scène entre Joseph et ses frères me semble être tellement pleine de sentiments de paix, d'amour, de réconciliation, que je n'arrive pas à en retranscrire toute la beauté, toute la grandeur, toute la plénitude. En Jésus-Christ, ce petit enfant dont nous allons bientôt célébrer la naissance, ce Fils de Dieu qui s'est fait homme par amour pour nous, ce Seigneur qui a donné sa vie pour nous racheter de la mort, en Jésus-Christ, nous trouvons cette plénitude de pardon. Pour ma part, j'ai parfois mes raisonnements humains qui essayent de prendre le dessus. Sans m'en rendre compte, je laisse l'ennemi de nos âmes utiliser ma sagesse humaine pour amoindrir la portée de ce pardon dans ma vie. Mais heureusement, l'Esprit de Dieu rappelle à mon cœur par des textes, comme l'histoire de Joseph, combien l'amour de Dieu est grand pour moi et combien son pardon est infini. Alors, afin que cette réalité reste une encre solide dans votre vie, j'aimerais terminer ce matin cette méditation sur le pardon avec la lecture du psaume 32 qu'Éric a partagé récemment avec moi. Méditation de David. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. ainsi que tout homme pieux te prie en temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides, comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence dont ils font dompter la fougue par la bride et par le mors pour qu'ils t'obéissent. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. »